Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Votre fidélité nous honore. L'Internet mobile enregistre de bonnes performances au Togo, mais la qualité d'expérience reste largement en deçà des attentes sur la navigation web. Et les débits montants, c'est la principale conclusion de l'analyse effectuée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP sur la qualité d'expérience de l'Internet mobile mesurée en 2024 au Togo. Les conclusions publiées ce lundi 28 avril mettent en évidence les performances des deux opérateurs présents sur le marché national, Mouv'Afrika Togo et IAS du groupe Asian. L'étude qui repose sur 5 indicateurs clés, le débit descendant, le débit montant, la latence, la navigation web et le streaming, YouTube souligne des résultats globalement encourageants, en particulier sur l'Internet 4G qui concentre plus de 75% du trafic national. Sur le plan national, Mouv'Afrika Togo conserve la première place avec un score global de 64 865 points contre 62 148 points pour IAS. Les deux opérateurs affichent de bons résultats au niveau du débit descendant en streaming vidéo et en latence. En revanche, les performances sont jugées insuffisantes en matière de navigation web et de débit montant. Au niveau régional, dans l'espace Umoa, Mouv et IAS se classent respectivement deuxième et quatrième sur 16 opérateurs évalués. À l'échelle du continent africain, sur 55 opérateurs, Mouv est huitième pour l'Internet mobile, toutes technologies confondues, et troisième pour la 4G. IAS, de son côté, est douzième au classement général et sixième pour la 4G. Le sujet nous intéresse au Club de la presse de ce mercredi 30 avril 2025. Nous en parlerons et nous parlerons également d'autres sujets liés à l'actualité telle qu'évoquée par des journaux parus ce matin. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa sur la mise en onde, Jérôme Dakoutsa est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous ceux qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Koktouazi à Dabaon. Vous le savez très bien, vous pouvez nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube, aussi notre page Facebook. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre à travers nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes mercredi. Mercredi, ça rime bien avec santé, éducation, n'est-ce pas, Dadi Tonadi? Bonjour.
Bonjour, absolument, Pascal. Bonjour à tous les auditeurs et auditrice de Canal FM. Et
j'espère que vous allez bien.
Ça va bien.
Et quand vous êtes avec nous, ça veut dire que le journal Santé Éducation est dans les kiosques ce matin.
Absolument.
Voilà, donc vous parlez, vous abordez même d'ailleurs beaucoup de sujets hein, sur dans votre journal Santé Éducation paru bien sûr ce matin. Et premier sujet qui nous intéresse bien, c'est par rapport au sommeil paisible. Et vous écrivez sommeil paisible, recettes et aliments. Donc il faut des recettes et aussi des aliments. Alors, pour faire un sommeil paisible.
Oui, quand on parle de sommeil paisible, vous savez, c'est le soir qu'on dort. Donc, d'après des études qui sont faites, notre dîner influence notre sommeil. Cela amène des gens à avoir l'insomnie ou bien à ne pas avoir le sommeil réparateur, comme on l'appelle. Donc, c'est important dans cet article. Le sujet, c'est de mettre l'accent sur le dîner qui va favoriser l'endormissement, le dîner qui va amener à avoir un sommeil réparateur, c'est ce que nous appelons un sommeil paisible, c'est-à-dire que vous dormez paisiblement et vous réveillez le matin en bonne forme. Et quand on a le sommeil paisible et le sommeil réparateur, cela permet à l'organisme de faire la mise à jour, hein, cette mise à jour au niveau des organes. Ce qu'on ne sait pas toujours aussi, c'est que quand on dort, il y a un travail chimique, tout qui se passe au niveau de l'organisme, ce qui fait que demain nous réveillons, il y a beaucoup d'élimination, beaucoup de mise à jour, et on se réveille en bonne santé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pendant le soir ou bien pendant le dîner? Il faut prendre des aliments qui favorisent le bon sommeil. Et dans cet article, nous mettons un certain nombre de fruits, un certain nombre de légumes, un certain nombre d'épices. Et puis surtout, nous mettons l'accent sur les thés. Les thés, le soir, favorisent la bonne digestion et l'endormissement. Donc, on a proposé là quelques herbes qui sont chez nous. Hein. On n'est pas obligé d'en commander ailleurs.
C'est-à-dire des herbes qui sont à portée de main.
Oui, des herbes qui sont même dans certaines maisons, hein, qu'on peut juste cueillir et puis faire une infusion et prendre et puis favoriser et la bonne digestion et puis l'endormissement, le sommeil réparateur, mais le sommeil paisible. C'est un article important pour nous tous.
Et justement, c'est un article important pour nous tous puisque nous avons tous ensemble besoin d'un sommeil paisible, n'est-ce pas?
Absolument.
Voilà. Alors, vous vous intéressez aussi, hein, dans l'apparition d'aujourd'hui à un organe, c'est bien les reins. Et les reins, vous parlez alors de la qualité d'eau à boire pour protéger les reins.
Oui, Pascal, vous voyez, ce titre, c'est quand on le dit ainsi, les gens vont dire, ben non, c'est quoi? On boit, mais attention, des études sont faites. Et les résultats sont tellement étonnants que beaucoup ont des reins qui ne fonctionnent plus bien parce qu'ils ne s'hydratent pas suffisamment. Ou bien, dans la journée, on boit autre chose que l'eau. Et vous voyez, donc, quand vous buvez autre chose que l'eau, à un moment donné, vous avez l'impression que vous avez bu et que vous n'avez plus soif. Mais attention, l'eau, c'est la meilleure boisson. C'est l'un des premiers médicaments de l'organisme, de tous les organes. Donc, on doit boire suffisamment, hein, pour permettre, parce que quand l'eau vient au niveau des reins, cela permet aux reins d'éliminer les toxines et les déchets. Mais quand on ne s'hydrate pas suffisamment, et les reins s'efforcent de travailler et cela peut les amener à se fatiguer. Et souvent, vous allez voir des gens, ils sont fatigués. Ils se lèvent très fatigués, ils ont des crampes, ils n'ont pas d'appétit. Il y en a même qui commencent par maigrir. Il y a aussi l'insomnie qui vient. Donc, tout ça là s'accumule. C'est que sûrement, mais il y a même des gens qui ont l'anémie. Hein, des gens qui souffrent très souvent de l'anémie. Il faut aller consulter. Peut-être que c'est un problème au niveau des reins. Donc, ça, c'est des symptômes. Si on a des problèmes au niveau des reins, il faut aller consulter. Alors, boire l'eau, hein, Pascal. L'eau, c'est la meilleure boisson. Aujourd'hui, nous parlons de l'eau, la meilleure boisson qu'il faut boire. Et cela fait du bien à tous les organes de l'organisme, dont les reins. Les reins, ces deux jumelles-là, ou bien ces deux jumeaux, qui sont très importants pour la santé. Parce que si les reins ne fonctionnent pas, les toxines et les déchets restent dans l'organisme. Et ça empoisonne tout le corps. Et c'est des maladies. Et c'est des maladies rénales qui arrivent. Donc, c'est un article important. Le secret est déjà dévoilé. Buvons de l'eau suffisamment dans la journée. Hydratons-nous pour avoir la santé, et notamment la santé au niveau des reins.
Voilà, buvons suffisamment d'eau pour avoir la santé, surtout la santé des reins. Et vous parlez même d'ailleurs de vous intéresser à la qualité, surtout alors de cette eau à boire.
De l'eau potable.
Ce qui veut dire que nous devons vraiment boire de l'eau potable. Alors, vous vous intéressez également à un autre organe, c'est le cœur. Le cœur, vous écrivez, marche pour protéger le cœur des hypertendus. Quand on marche, ça protège bien sûr le cœur.
Oui, nous parlons tout le temps de l'hypertension parce que vous connaissez, on en a parlé ici le mercredi passé, 30%, plus de 30% de Togolais sont des hypertendus. Donc, une étude faite et les résultats prouvent que les hypertendus qui marchent, hein, l'OMS a demandé de marcher combien de fois par jour, combien de minutes par jour?
30 minutes, je pense.
Très bien. 30 minutes par jour et puis tous les jours, si on peut le faire de lundi à dimanche, ou bien au minimum 3 fois dans la semaine, une marche active pendant 30 minutes, cela fait du bien à l'organisme. Et pour tout le monde d'ailleurs. Mais encore pour les hypertendus, d'après les recherches, les études, cela est un médicament. La marche est un médicament de l'hypertendu. Il faut le comprendre aujourd'hui. Les hypertendus qui ne marchent pas se font du tort pour le traitement et surtout pour leur cœur parce que c'est le cœur qui est au centre de cette maladie-là. Donc, marchons, hein, les hypertendus, marchez 30 minutes par jour pour avoir la santé du cœur, pour éviter des complications de l'hypertension. C'est très important.
Voilà, et donc, même ceux qui ne sont pas des hypertendus aussi, parce que c'est une recommandation de l'OMS, il est très important quand même que nous marchions tous ensemble.
Tout le monde doit marcher, comme on l'a dit, tout le monde doit marcher, et c'est très important, parce que tout le monde a le cœur, c'est pas seulement l'hypertendu qui a le cœur. Tout le monde a le cœur, donc il faut marcher pour la santé du cœur et pour la santé du manège général.
Voilà. Alors, Gadiel, je lis autre titre, hein, à la une, alors, de votre journal. Vous écrivez précaissez et calmer les crises d'asthme. Précaissez, c'est encore quoi?
Précaissez, c'est ce qu'on appelle quatre côtés, ce genre de fruit sec, brun, un peu noirci aussi, qui se trouve sur le marché et qui a des vertus, hein, beaucoup de vertus sur la santé sexuelle, hein, beaucoup de vertus pour la santé cardiovasculaire. Et ici encore, d'après une étude faite au Nigeria à côté de nous, précaissez, les quatre côtés, ont des vertus sur. En tout cas pour le système respiratoire. Alors, ceux qui ont souvent la toux, ceux qui sont souvent victimes d'infections respiratoires, ils peuvent se servir de précaissez ou bien de quatre côtés. Il y a des recettes dans cet article. Et puis, c'est encore mieux pour les asthmatiques, pour éviter les crises, ou bien quand la crise vient, on peut s'en servir pour la gérer, pour la réduire. Donc, on a deux recettes dans cet article très important. C'est avec des spécialistes. C'est des recettes sûres qu'il faut mettre en pratique.
C'est des recettes sûres hein, qu'il faut mettre en pratique. Merci beaucoup, Gadiel Tournadi, d'être passé justement alors dans cette émission. Et pour avoir votre journal ou pour acheter votre journal, quelles sont les conditions pour l'acquérir?
Comment on aime à le dire, le journal physique, vous voulez l'avoir, appelez-nous au 96 14 97 97 pour vous abonner. C'est mieux. Là, vous avez l'assurance que vous allez l'avoir. Ou bien télécharger le journal numérique sur le site internet www.santéducation.tg. C'est à 500 francs.
C'est à 500 francs. Merci, Gadiel. Tu as dit d'être passé dans cette émission. Merci. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission et surtout d'animer cette chronique santé avec vous chaque mercredi dans cette émission. Sans transition, nous passons également, nous parlons de la nutrition. Nutrition, et là, nous sommes avec le président des médias ou du réseau des médias pour la nutrition et la fortification de l'alimentation. Et Basile, bonjour.
Bonjour Pascal, et bonjour à nos confrères ici. Et bonjour aussi, surtout à ceux ou celles qui nous écoutent actuellement.
Voilà, j'avoue que vous êtes très élégant dans votre boubou ce matin.
Merci, parce que je viens d'une tournée là, des pays où on porte des boubous. Donc,
c'est où on porte souvent des boubous?
C'est le Sahel. Voilà. Je dirais nos compatriotes de l'AES. Mm. Donc, sans transition, j'ouvre en même temps le débat. Et vous savez, nous parlons de la nutrition. Et aujourd'hui, les études sont faites entre le sol, notre nourriture et notre corps. Parce qu'il y a un lien entre ces trois éléments-là. Donc, si le sol est contaminé dans le sens où quelqu'un n'est pas venu pour empoisonner le sol, mais c'est eu égard à certains produits chimiques qu'on utilise pour avoir un bon rendement, ça impacte sur nos aliments et ça nous porte préjudice. Raison pour laquelle on dit qu'il y a un impact ou bien un lien entre le sol et ce que nous mangeons et notre corps. Aujourd'hui, si on se voit, nous sommes ici, c'est grâce à la nourriture que nous avons mangée. Ou bien vous ne faites pas cette...
Non, mais c'est ça. Voilà. Justement, c'est l'aliment.
On était tout petit, mais qu'est-ce qui nous a vu grandir? C'est que on nous a mis sous une alimentation qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, demain, c'est le 1er
mai.
Et qu'est-ce qui va se passer?
Mais c'est la journée.
Et qu'est-ce qu'on fait d'habitude?
Mais on mange.
On mange et on boit.
On boit aussi.
Voilà. Donc, Santé Éducation a pensé à une journée que nous avons dénommée Thé des journalistes, où nous allons convier tous les collègues à venir à Santé Éducation pour qu'on puisse parler de la santé. Vous savez, on doit être bien portant. Je dis toujours que notre première liberté, l'élément fondamental de cette liberté, c'est la santé. Parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Et souvent, on ne peut pas diriger, on ne peut pas mener une activité. Et donc, nous devons être heureux que nous avons la santé. Mais nous avons la santé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quoi? Maintenir ça.
Et préserver cette
santé. Voilà, c'est comme c'est une flamme, il faut la protéger contre le vent pour que la flamme ne s'éteint pas. Est-ce que nous avons conscience aujourd'hui que notre santé doit être protégée? Est-ce que nous avons cette conscience-là? Aujourd'hui, pas. Parce que toutes les études montrent que c'est lorsque nous perdons cette santé-là que nous voyons l'utilité. Donc, Santé Éducation s'appelle depuis 2002. Et 2005, nous avons eu l'autorisation que nous avons commencé à parler de la santé. Mais quel résultat nous avons aujourd'hui? Depuis que nous avons commencé, je vous donne une petite une évidence. Avant 2002, le taux de l'hypertendue était à 9%. Mais aujourd'hui, en 2025, selon les études menées en 2021, parce que si on doit réellement parler du taux, donc ce qu'on nous a publié ne reflète plus la réalité. Est-ce que vous voyez? Donc c'est vraiment catastrophique.
Quand on parle de 30%.
Oui. Donc c'est ce qui veut dire qu'on rejoint la France où une personne sur trois est hyper tendue. Et là encore, on a des gros moyens. On a le plateau technique qui est au point de tout ça. Mais aujourd'hui, au Togo, est-ce que c'est réellement ça? Quand bien même que l'État fait des efforts pour construire, pour mettre à la disposition des professionnels de santé un plateau technique, est-ce qu'aujourd'hui c'est ça? Parce qu'on se calque très souvent derrière le médicament, alors que le médicament seul ne fait pas la santé. La santé, c'est la prévention. C'est ce qu'on a enseigné aux médecins. Eux-mêmes le disent, que la santé, c'est la prévention. Est-ce qu'aujourd'hui, au Togo, avec toutes les structures que nous avons, est-ce que nous sommes engagés dans la prévention? Si vous rentrez au Bénin, je viens du Bénin, l'immeuble du ministère de la Santé, on a écrit avec je ne sais pas.
Il y a un grand caractère.
Oui, oui. Ouais, manger moins gras, et faites des mouvements, faites tout ça là. Lorsque vous rentrez, la première des choses qui vont vous frapper, c'est ça. C'est l'information. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un message déjà. Lorsque vous rencontrez j'ai rencontré les autres de l'AES, c'est-à-dire que c'est une préoccupation. Pascal, aujourd'hui, les données nous disent que les prédiabètes aujourd'hui, au niveau mondial, ça fait déjà 1 milliard de personnes qui attendent. C'est-à-dire que ce milliard-là va se basculer si on n'éduque pas, si on ne fonde pas. D'où cette nécessité de travailler en synergie, de mettre tout le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Santé Éducation collabore avec d'autres médias. Parce qu'un seul arbre ne peut jamais faire la forêt.
Ça, c'est clair.
Donc, l'information, aujourd'hui, on doit parler de ça. Monsieur Tchouanadi a parlé du sommeil. Combien de personnes ont dormi les 6 heures ou bien 8 heures cette nuit-là? Ils sont au nombre de combien? Alors que si vous ne le faites pas, il y a une résultante. Parce que ça va vous rattraper. Notre mémoire, chaque cellule. Nous avons dans nos neurones 1 milliard de neurones.
Oui, alors, pour ce qui concerne le thé des journalistes, comment ça va se dérouler demain?
Demain, les journalistes sont conviés. D'abord, je fais un clin d'œil à la famille éplorée de notre collègue rédacteur en chef de la Top. Paix à son âme, Dakar Ignace, et à qui nous présentons avec vous ici toutes nos condoléances.
Tout à fait. Il y a quelques jours, nous l'avons reçu même d'ailleurs ici sur le plateau.
Voyez-vous. Donc, c'est pour dire que avant que les journalistes n'aillent informer, il faudrait qu'ils soient en bonne santé. Est-ce que vous voyez? Donc, ce rassemblement de demain va nous permettre de parler de la santé, de poser le problème de la santé dans notre communauté. Ce n'est pas d'inviter un expert. Hein, mais entre nous, nous allons essayer de nous conscientiser, de dire à quel niveau est la lutte au Togo. Quels sont les facteurs aujourd'hui qui font que le Togolais prend la route de l'hôpital. Parce que tout aujourd'hui, tous nos efforts sont orientés vers notre prise en charge. Est-ce que nous tous, nous avons ce pouvoir-là? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le voyage médical. C'est orienté vers quoi? La Tunisie. Les gens vont se faire opérer là-bas. Nous avons des résultats beaucoup qui nous confortent que aujourd'hui, nous devons aller à l'éducation, à l'information des populations. L'éducation de masse, nous avons commencé avec les femmes du marché. Nous allons continuer. Et nous allons, il y a plusieurs cibles. Nous tous, nous avons besoin de ça. Nous-mêmes qui parlons, il y aura ce qu'on appelle masterclass de demain. Les gens vont parler de leur expérience pour dire que aujourd'hui, cette situation est réversible. Si vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, vous traînez une pathologie, aujourd'hui c'est réversible si vous vous mettez sur la voie de la guérison, voilà. La voie de la guérison, d'être informé et disposé aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, Santé Éducation, c'est un outil d'information puissant.
Justement. Alors, ce sera justement une rencontre d'échange et de partage d'expériences, telle que vous l'avez dit. Et ça va se tenir où et c'est à quelle heure?
Ça va se tenir au siège de Santé Éducation à 9h. Vous savez, Santé Éducation, c'est derrière la maison de notre légende, Adebayo, en fait face du terrain de Tochi. Il y a l'immeuble rose là. Hein, c'est nous qui occupons l'immeuble rose en face de la maison de Tochi. Donc, tous les journalistes sont conviés et ceux qui ne sont pas aussi des journalistes peuvent aussi faire partie. Hein, parce qu'on ne voit pas quelqu'un qui va venir et puis on va le... Oui, le thé de journalistes. Les techniciens sont conviés. Oui, vos collaborateurs.
Justement, ils sont tous alors des hommes de médias. Merci beaucoup, Basile. Sylvestre Béni, on est tous ensemble conviés à cette rencontre thé des journalistes. Bonjour d'abord.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous. J'ai reçu mon invitation il y a 3 jours. Ah. Donc je crois que...
Mais tu es privilégié là.
On y sera.
D'accord, voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Abbas, je ne sais pas si vous avez reçu aussi votre invitation il y a 3 jours.
Individuel, non. Collectif, oui.
Ah, d'accord, l'essentiel c'est ça. Vous l'avez reçu. Bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
On va bien, on rend grâce à Dieu.
Dieu merci. Juste un ami, bonjour.
Pascal. Bonjour,
j'espère que vous allez bien aussi.
Bonjour. Oui, bonjour Anani, bonjour. heureux de vous savoir bien portant aussi.
Vous avez reçu aussi l'invitation collective.
Oui, tout à fait.
D'accord, c'est bien.
C'est une très bonne initiative que j'apprécie d'ailleurs. Rien ne vaut la santé.
Oui.
Et donc, on doit être en bonne santé.
Tout à fait.
Avant de continuer à se bousculer au quotidien.
C'est très important. Alors, c'est vrai, nous parlons toujours santé chaque mercredi. Et là, avec Santé Éducation, et vous l'avez sans doute compris que nous avons décrypté même d'ailleurs l'actualité concernant surtout les articles alors de Santé Éducation, merci. Mais nous allons continuer notre débat. Basile, vous restez avec nous, il n'y a même pas de souci. Vous restez avec nous et je l'annonçais alors dans mes mots introductifs, c'est concernant justement l'Internet au Togo. L'Internet au Togo où il est dit où il y a des données quand même qui révèlent que l'Internet mobile risque de bonnes performances, mais la qualité d'expérience reste largement en deçà des attentes sur la navigation web et les débits et montants. C'est la principale conclusion de l'analyse effectuée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP sur la qualité d'expérience de l'Internet mobile mesurée en 2024 au Togo. Alors, Sylvestre, c'est vrai que c'est un débat que nous faisons toujours ici au Club de la Presse concernant surtout l'Internet. Vous comprenez que déjà, quand on parle alors d'Internet au Togo, c'est toujours en deçà des attentes alors des populations.
Oui, si vous le permettez, je voulais m'incliner devant la mémoire de notre confrère Ignace, parce que c'est un confrère que nous avons perdu subitement. Nous étions encore sur un projet, on devait même sortir un rapport, on a travaillé sur le rapport, il a même envoyé sa partition. Et quelques jours après, 24 heures après, vous apprenez que ce personnage est parti. Je crois que c'est véritablement triste. Et donc, je profite de votre antenne pour m'incliner devant sa mémoire et présenter mes vives condoléances à sa famille.
Et c'est toute l'émission Club de la Presse qui le fait à travers vous.
Oui, vous savez, ensuite, quand c'est revenu sur le débat, je crois que oui, les Togolais se plaignent très souvent donc de la connexion Internet depuis un moment, surtout de la cherté des prix. Et, généralement, les techniciens se défendent aussi en apportant du moins des éléments pour soutenir le fait qu'ils ne peuvent pas faire grande chose du fait donc de la population. Vous savez, nous ne sommes pas nombreux au Togo. Et beaucoup ont quand même voulu que d'autres opérateurs économiques viennent parce que, vous savez, de la concurrence aussi, on a les prix baissent généralement. Avant, nous n'avons qu'une seule brasserie. Quand la deuxième est arrivée, les prix ont chuté. Donc, beaucoup estimaient que si on a d'autres opérateurs à part ceux qui sont là, peut-être que les prix vont baisser. Mais généralement, lorsque vous écoutez ces techniciens-là, ils disent que du fait même de la population togolaise qui n'est pas aussi nombreuse, donc beaucoup hésitent à venir sur ce terrain. Hein. Et ceux qui sont là, s'ils ne maximisent pas, ils ne peuvent pas faire un retour sur investissement. Ça, je crois qu'il revient aux techniciens de sortir un débat avec des chiffres et tout ce qui va avec pour le dire. Maintenant, pour le bas peuple, oui, nous considérons qu'on peut encore faire davantage en diminuant un peu ou progressivement ou drastiquement les prix donc de la connexion au Togo, parce que lorsque vous regardez un peu ce qui se fait à côté, vous voyez certains avec peut-être 5 gigas, ils ne payent presque rien, mais au Togo, quand on te parle de 5 gigas, c'est toute une fortune. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là que nous devons mettre dans la balance pour que quelque chose soit fait. Maintenant, aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu dans la masse, le débat, c'est telle société est en avance sur l'autre. Nous, c'est pas ce qui nous importe, quoi. Que la société X est mieux en connexion que la société Y, nous, ce n'est pas notre tasse de thé. Ce que nous voulons, que X soit devant ou Y soit derrière, il faudrait que nous ayons un prix relativement bas pour la connexion, parce que aujourd'hui, tout est digital. Si vous pour télécharger un document, vous devez encore attendre peut-être pendant 30 minutes pour avoir ce document, alors que si c'était une connexion aussi rapide, vous devez l'avoir rapidement. Je crois que c'est à ce niveau-là que des efforts doivent être encore faits pour que le Togolais soit véritablement mieux loti, quoi, comparé aux pays limitrophes.
Voilà. C'est vrai que nous sommes à l'ère du numérique, et avec cette ère du numérique, il est très important quand même qu'on mette aussi, qu'on relève le défi à l'heure de l'Internet pour que finalement, pour ce qui doit être alors, tout ce qui doit faire l'objet à l'heure du numérique soit fait aussi avec fluidité.
Oui, que la connexion soit beaucoup plus. Parce que quand vous prenez aujourd'hui tout ce qui se passe même dans le pays, le gouvernement a tout fait pour digitaliser certains services, beaucoup de services. Le service des nationalités est digitalisé. Le service des passeports, comment obtenir même son casier judiciaire. Mais si la connexion n'est pas fluide, et à ce où vous allez, quand vous vous connectez, après on vous dit que ça ne passe pas vite, c'est que c'est des dépenses que vous faites inutilement. Vous devez revenir pour la reconnexion. Et l'ARCEP qui a fait aussi ce classement, ou bien ce qui a fait ce rapport, je pense que l'ARCEP devait plus pencher sur la connexion, la qualité de la connexion sur Internet. Je pense que c'est par rapport aux invectives de l'ARCEP qu'aujourd'hui, les choses sont en train de s'améliorer au niveau des deux téléphonies mobiles au Togo. Jusqu'à chaque fois, on voit la CEP sortir des communiqués, souvent même des allant jusqu'à sanctionner les téléphonies mobiles qui manquent à certaines de leurs obligations, à certaines de leurs cahiers de charges. Et je pense que c'est suite à ça qu'aujourd'hui, on nous parle de la connexion un peu qui a évolué, mais par rapport à la qualité, puisque au niveau de la population, au niveau des consommateurs, des usagers, ils vont vous dire que ce n'est pas exactement ça ce que nous voulons. Or, quand vous contactez les sociétés de téléphonie mobile, les deux que nous avons, c'est qu'elles se débattent pour le faire. Elles se débattent pour améliorer ces conditions d'accès à l'Internet au Togo. Au niveau de l'État, je pense que aussi des efforts sont en train d'être faits pour cet accès à l'Internet. Mais il faut se battre, Sylvain vient de le dire, c'est le coût de l'Internet. C'est sur le coût de l'Internet. Vous savez, on dit, vous avez 60 gigas pour 15 000. Et souvent même, vous n'arrivez pas à finir même les 60 gigas parce que vous êtes 3 ou 4 dans le bureau. Ça ne finit pas, mais c'est fini après 30 jours, c'est coupé. Donc aujourd'hui, comme on le dit, l'Internet a évolué, mais l'Internet qui devait être aussi au service de la population devait servir aussi le gouvernement par rapport à la digitalisation qui se fait dans tous les services, dans tous les domaines que nous avons, puisque les efforts sont en train d'être faits. Et ARCEP, qui est là pour aussi contrôler le fonctionnement de ces téléphones mobiles, doit aussi mettre aussi quelque chose pour que, au moins au niveau de l'Internet, la population soit beaucoup plus satisfaite sur le coût et la fluidité de l'Internet.
Mmh. Je sais, c'est vrai qu'entre-temps, le débat sur un troisième opérateur mobile a été posé sur la table, où les uns les autres disaient, même, écoutez, quand on aura un troisième opérateur, sûrement que ça va faire plus alors de concurrence. Et quand ça fera plus de concurrence, c'est les populations qui vont en bénéficier.
Mais forcément, oui, parce que nous sommes dans le domaine commercial. Lorsqu'il y a concurrence, chaque société, chaque structure cherche à faire mieux. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. Je ne pense pas que si vous allez aujourd'hui au Bénin, vous allez retrouver deux sociétés de téléphonie mobile. Non. Vous allez au Ghana. Non. Vous allez en Côte d'Ivoire. Non. Mais les démarches qui sont faites ici depuis des années, d'ailleurs ceux-là qui sont les pionniers même qui ont pris l'initiative d'installer la téléphonie mobile au Togo, qui se retrouve aujourd'hui, je crois, à la structure en Afrique du Sud, ont mis les moyens. On ne sait pas par quelle alchimie, donc leur demande a été refusée. Et que par après, bon, c'est Togocel qui est devenu par après Togocom aujourd'hui YAS, et puis bon, Télécel qui est devenu après aujourd'hui Move, c'est Move Africa aujourd'hui. Donc, toutes les autres sociétés, que ce soit Orange, que ce soit MTN, qui ont exprimé une volonté dans un moment donné de venir s'installer au Togo, je ne sais pas par quelle alchimie, leur demande a été refusée.
Ah, mais bon, effectivement, sur ce point, donc on estime que nous avons une population qui n'est pas aussi trop grande en matière d'effectifs et de telle enseigne que le marché est tellement réduit.
Non, c'est faux. Ce n'est pas un argument. Parce que quand vous rencontrez les spécialistes, quel que soit le nombre que nous avons aujourd'hui au Togo en termes de population, on ne peut pas s'octroyer cet argument-là de pouvoir dire que c'est pour qu'on a refusé, que le Togo n'est pas trop si grand, ou la population est si tellement réduite ou petite, et qu'on ne va pas donner encore assez à une autre société de téléphonie mobile. Et ça me rappelle une déclaration d'une ministre de la République qui a dit que le Togo n'a pas besoin d'échangeurs. Malheureusement, nous sommes là et nous voyons ce qui se passe au quotidien. Bon, c'est dommage, nous sommes au Togo avec tout ce que nous avons comme la gouvernance. On ne peut que s'appuyer sur des arguments qui ne tiennent pas la route pour avancer ou tenter maintenant de convaincre. Le problème d'Internet au Togo ou de télécommunications se pose toujours avec acuité. Pour comparer dans la sous-région, c'est le Togo où le coût de communication est cher. C'est au Togo où vous dépensez beaucoup pour avoir moins de débit en termes d'Internet. Donc, c'est autant d'éléments sur lesquels on doit quand même surfer et analyser. Pourquoi nous sommes dans une telle situation? Je pense que la balle revient dans le camp des gouverneurs. Et ces gouverneurs-là, ou bien c'est ces gens-là qui nous gouvernent, qui en même temps font des affaires et qu'on retrouve également dans plusieurs structures de décision en termes de business. Je pense que...
Vous voulez dire que ça profite à des gens, c'est-à-dire la cherté alors de notre internet.
Ceux qui sont dans les conseils d'administration, on les connaît. On sait ce qui se passe dans les conseils d'administration. Bon, alors que vous prenez les tests de la République, c'est interdit. Vous ne pouvez pas être gouverné et au même moment faire partie de ceux-là qui font le business. Si vous voulez faire le business, donc démissionner de votre poste pour rentrer dans le domaine commercial, c'est simple plus que ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, ACEP qui est une structure chargée de régulariser, ailleurs, on voit la sommation en termes de mise en demeure. Peut-être, je dirais même chaque jour que je fais, histoire d'amener cette société-là de mieux faire. Bon, pas moment, ACEP fait sa sortie, dénonce, somme, mais on ne sent pas véritablement la pesanteur de tout ce qui se fait là pour que ça soit corrigé, malheureusement.
D'accord. Et Basile, c'est vrai que selon le rapport, hein, on comprend tout simplement qu'il y a assez, enfin qu'il y a d'amélioration ou il y a des efforts qui sont faits, j'allais dire, mais au-delà de ces efforts, il y a aussi des défis à relever pour que l'Internet soit accessible à coût réduit quand même aux populations.
Oui, comme les collègues viennent de le dire, il y a encouragé l'ARCEP de continuer à solliciter auprès de ces acteurs, que ce soit Move, je dis Move, que ce soit Move Africa et YAS. Parce que tout récemment, j'étais, avant-hier même, j'étais à Cotonou, j'ai remarqué une certaine amélioration. Parce que par avant, lorsque je partais, je mettais assez de crédit pour que lorsqu'on m'appelle, pour que je puisse supporter cette histoire de... Mais j'ai constaté que c'est comme si j'appelais aussi à Lomé, quoi. Donc, j'ai appelé à Lomé pour dire que, ah oui, que le roaming commence à vraiment ce que nous souhaitions en termes de paiement. Donc, il y a tellement de défis parce que nous-mêmes, les journalistes, nous avons besoin de cette fluidité de l'Internet pour travailler. Aujourd'hui, le monde, c'est un vieux village. Donc, il faut une connexion efficiente et efficace pour améliorer notre condition de travail et puis pour servir davantage nos populations. D'accord. Ça, c'est très important.
C'est très important. Abbas, je sais que sûrement les étudiants qui vont fréquenter le campus universitaire de Dacha vont certainement besoin de l'Internet. Et ça fait bien sûr la transition. Et parce qu'il y aura des cours en ligne, bien sûr, que ces étudiants feront. Vous êtes revenu alors sur cette université dont la première pierre a été posée tout récemment. Et vous écrivez « Université de Dacha, un campus d'avenir » pour une jeunesse ambitieuse, une promesse d'éducation qui prend corps.
Oui, je pense qu'il faudrait aller plus loin. Parce que quand on fait des pots de pierre, il faudrait aussi réaliser ça en acte. On a vu, il y a l'université de Kara, on avait posé aussi des pierres. Et une pierre qui est en train d'être construite, puisque actuellement l'université de Kara est logée quelque part à l'entrée de la ville. Donc, quand vous allez à Kara, vous allez voir l'université là, qui est là. Parce que ça, ce projet-là a été mis en place depuis 2020, où on parlait de l'université de Dacha, au moins pour désengorger les deux universités, celle de Lomé et celle de Kara, pour avoir aussi. Mais aussi la particularité de cette université de Dacha, c'est... ça serait beaucoup plus consacré à la culture, à la santé et à l'ingénierie pour que au moins ceux qui vont sortir de cette université soient plus en même temps à même de pratiquer quelque chose de leur bien. C'est-à-dire qu'ils soient formés directement pour éviter le chômage. On voit qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez nos deux universités qui sont actuellement là, les universités publiques, quand les gens sortent, c'est le chômage. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Et on sort, et puis à chaque fois, à chaque année, les chômeurs s'agglutinent. Lorsqu'on lance un concours de recrutement pour 30 ou 50 personnes, vous allez voir que c'est plus de 2000 candidats qui vont se positionner pour faire ça. Parce que on n'avait pas adapté notre formation à une pratique. À ce que quand tu sors de l'université, au moins, tu as quelque chose que tu fais. Puisque maintenant, on est en train de promouvoir ce qu'on appelle l'entrepreneuriat privé, l'entrepreneuriat individuel. Il faudrait qu'on forme aussi la jeunesse à cet entrepreneuriat-là, comme ça se fait dans d'autres pays. Lorsque vous prenez les pays anglophones, c'est la même chose qui se fait. Dans les pays anglophones, lorsque vous sortez, c'est les enfants sont formés. Ce n'est pas pour aller rester dans les bureaux, mettre des cravates, parce que c'est le système francophone qui nous a mis dans ça, que moi, je vais à l'école, c'est pour venir rester dans les bureaux, cravaté même, et bien habillé. Je ne veux pas m'occuper des champs. On a vu des étudiants qui sortaient de l'agronomie, mais qu'est-ce qu'on en a fait?
Et qui sont restés dans le bureau.
Qui sont restés dans le bureau. Maintenant, on a créé même les IFAD. Ces IFAD-là, je pense que ces IFAD-là vont permettre à cette université aussi d'avoir au moins des gens qualifiés qui vont sortir et en même temps être pratiques sur le terrain. Donc si on finit, on va souhaiter que cette université dont on a déposé la pierre la dernière fois, c'était le 26, que cette université voit le jour, puisqu'on a c'est pas l'État togolais seul, c'est un partenaire avec une collaboration avec un partenaire privé qui sont mis pour construire cette université. Et c'est prévu dans le budget actuel, le budget qui a été voté 2025, les fonds sont prévus par ce budget-là. Et nous espérons que ce budget-là puisse permettre d'allouer, de construire cette université, parce qu'on a parlé de la construction de 5 centres. Il y aura 3 amphis, il y a la direction, le rectorat qui sera là, et puis le restaurant universitaire qui va permettre à ce que quand les étudiants vont arriver, ils vont aussi avoir droit à tout ce qui se passe dans les universités comme à Lomé et à Accra. Et de deux, on parle de la proximité avec les étudiants, les jeunes qui vont quitter leur préfecture au lieu de venir à Lomé, au lieu d'aller à Accra, ceux de la région centrale et de la région des plateaux peuvent aller dans cette université. Et également les enseignants qui sont recrutés, qui enseignent à l'université de Lomé et qui donnent des cours dans cette université vont facilement faire le lien entre l'université de Lomé et l'université de Accra. En quittant, il n'y aura pas beaucoup de choses à faire. Donc, je pense que c'est une bonne chose. D'accord. Mais il faudrait accélérer les travaux pour qu'on puisse avoir cette université.
D'accord.
Mais
c'est vrai que, cette université troisième du genre viendra désengorger les deux qui existent déjà sur le terrain. Mais au-delà de cela, il faut se poser la question de savoir exactement quelles compétences, surtout pour le modèle d'étudiant qui sortira de l'université.
Malheureusement, vous nous faites parler de quelque chose qui n'existe pas et qui peut-être à ma foi, je ne sais pas, je vais pas être un oiseau de mauvaise augure, mais peut-être qu'il n'existera pas parce que nous sommes habitués à des pots de première pierre et 20 ans après, il n'y a rien qui puisse sortir de terre. Nous avons écrit là-dessus, il y a tellement d'exemples à donner. Il y a eu pose de la première pierre à Veta dans le cadre donc d'une... C'était dans le domaine agricole. Le chef d'État avait posé la pierre après. Même ceux qui ont posé la pierre ne se retrouvent pas. Ils ne savent même pas là où ils ont posé la pierre. Le lieu aujourd'hui est abrité par des reptiles de toute Acadie. Et puis bon, voilà. Aujourd'hui, on nous dit, on a posé donc, la première pierre d'une université. Je m'attendais qu'au lendemain, qu'on voit déjà des ouvriers sur le terrain, le chantier qui tout bouillonne et tout. Mais bon, voilà, quoi, on a posé la première pierre. Puis bon, voilà, quoi. Aujourd'hui, vous savez, le mal de notre pays, c'est qu'on célèbre beaucoup plus les promesses que les réalisations. C'est ça notre mal. Vous voyez, on nous a promis quelque chose et puis on célèbre, on parle de l'université, tu me demandes quelle est la compétence qui va sortir. Mais je veux voir d'abord les bâtisses, le bâtiment sorti de terre. Je vois déjà la disposition, je vois un peu que la disposition des amphis. Je me dis, voilà, avec au moins... ce schéma-là, je peux déjà imaginer quelque chose. Donc, c'est un exercice difficile pour moi. C'est-à-dire que je veux parler de quelque chose qui n'existe pas. Donc pour
ceux qui le perdra.
Mais bon, ça c'est bon, c'est une question de foi. Ouais, ça devient une question de foi. Tu me dis qui existera. Bon, oui, ça existera, quoi. Bon, on va prier Dieu que ça, que cela prenne corps. Donc, si vous le permettez, comme moi, Justesse impatiente, on va lui donner la parole. Il va continuer.
Mais Justesse, c'est vrai que, entre-temps, il y avait même d'ailleurs, on nous a parlé de cette université de Cloto. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une université agricole, même normalement, qu'on devait également construire dans le Cloto. Et il y avait la première pierre également qui a été posée, et c'était avec le ministre Iwuatiba, Majesté Iwuatiba. Vous vous souvenez? Mais au-delà de tout, on ne va pas quand même poser des premières pierres et par après laisser les choses ainsi.
Non, je ne suis pas du tout pressé pour, ou bien du moins sur cette problématique, comme mon confrère a eu à le révéler tout à l'heure, parce que c'est véritablement une problématique. J'aurais peut-être aimé que vous articulez le questionnement sur la base en termes de bilan. Parce que le 24 avril dernier, ça fait pratiquement 20 ans, que le chef de l'État actuel a pris le pouvoir dans les conditions que tout le monde sait, rocambolesques. Mais 20 ans après, sur ce volet que vous venez de toucher, je pense qu'il est à dire, à redire. Pour la simple raison que la plupart du temps, on assiste tabou battant à la manifestation, à la cérémonie de la pose de la première pierre. Et puis après, on annonce des intentions, des catalogues d'intentions d'ailleurs, je dirais, et qui, au finish, on ne voit rien debout.
Mais ce qui est sûr, au cours même d'ailleurs des festivités hein, du 27 avril, nous avons vu quand même l'inauguration de cette telle structure.
Laquelle ?
Et il y a également cette structure alors de confession des trinis à Dacha, bien sûr. Il y a aussi à la pays, il y a beaucoup quand même de choses. Hein.
Je sais pourquoi je dis que vous aurez dû peut-être repositionner le questionnement sur la base en termes de bilan. Peut-être on va essayer de les relever.
Non, mais justement, on parle plus alors de l'université de Dacha, voilà. Puisque notre confrère en a fait cas, et dans son journal, je veux lui parler d'Abbas. C'est pour cela même d'ailleurs que je voudrais articuler plus alors mes questions sur les compétences qui sortiront justement alors de cette université. Et je pense qu'en tant que journaliste, nous, notre analyse.
Malheureusement, l'université n'est pas encore construite. Donc, bien sûr, les détentions sont avancées. Et on va attendre de voir les étudiants qui vont sortir de ces universités-là et les besoins également sur le terrain. Et, mais en termes de besoins, il faut dire que il y en a énorme. Et je pense qu'on doit quand même revoir tout ce qui est curriculaire en termes de formation, en termes d'éducation. Quelqu'un a le dit tout à l'heure. Beaucoup sont sortis des universités, mais qui se retrouvent aujourd'hui à la maison, qui ne savent plus à quoi faire. Vous prenez le plaisir peut-être de monter sur un ZEM. Si vous osez peut-être vous exprimer en français, peut-être vous risquerez peut-être de tomber sur un homme qui a pratiquement tous les diplômes mais qui ne trouve pas fait, qui se retrouve dans la rue avec sa moto ou sa vieille moto et qui est tellement aussi sur une pression. Donc je pense que le problème est réel. En termes de formation, en termes d'éducation au Togo, il revient également à ces gouverneurs-là qui sont aux affaires et qui sont également dans une logique de la 5e République. On ne sait pas là où on va avec. Et au moment venu, on avisera.
Basile, est-ce que vous pensez quand même que déjà pour cette université qui est en construction ou dont la première pierre a été posée tout récemment, est-ce qu'on aura quand même des compétences dignes de son nom, c'est-à-dire de modèles de compétences qui sortiront là?
Ouais, vous savez, l'université est toujours un temple de connaissances. Donc tout ce que nous pourrions souhaiter, que cette réalisation soit concrétisée, qu'on ça ne soit pas un éléphant blanc de plus, mais que les gens soient convaincus que ce qui est dit se réalisera. Et vous voyez, ça va raccourcir quoi la distance de nos concitoyens qui sont à l'intérieur du pays. Et puis je pense que ça va améliorer ou bien booster cette connaissance au niveau des jeunes. Et ce voyez. Donc, lorsqu'on crée une université, c'est que on veut accueillir des jeunes pour quoi un lendemain meilleur. Donc, il faut cette formation. Donc, ce que nous pourrions souhaiter pour l'heure, c'est que cette réalisation soit une quelque chose de concret et puis de viable.
D'accord. Oui, Sylvestre, je viens à votre journal aujourd'hui où vous êtes intéressé au taux d'abstention au cours des élections, et bien sûr au Togo, vous parlez de municipal alors de 2025 et vous écrivez, vous mettez même d'ailleurs l'alerte et vous écrivez le risque d'une forte abstention. Qu'est-ce qui constitue déjà des preuves pour cette ce risque d'abstention ou de forte abstention que vous voyez déjà?
Oui, si vous voyez notre figure et graphique ce matin, nous sommes partis donc des élections de 2005 à aujourd'hui. L'évolution donc du taux d'abstention. Et vous verrez que de 2005 à 2025, nous n'avons eu que deux crues, c'est-à-dire les législatives de 2007 où le taux tourne autour donc de 14% et la présidentielle de 2020 où le taux tourne autour de 7%. Mais le pic a été observé en 2019 où on frôle même les 50% parce qu'on était autour de 47, quelque chose. Donc, et les facteurs qui ont concouru donc à ce fort taux d'abstention demeurent parce que vous savez, aujourd'hui, les Togolais ont tendance à céder à la fatalité. À la fatalité du régime. C'est tendance à dire « Maoula, ouais, quoi, un beau jour, Dieu le fera, Dieu nous sortira et tout. » Lorsque vous êtes dans ce discours, lorsque vous arrivez donc à ces clichés-là, et généralement, les gens ne se bousculent véritablement plus. Vous voyez un peu la révision des listes électorales. Vous avez vu que cela n'a pas tellement drainé donc du monde, du moins sur l'ensemble du territoire national, il n'y a pas eu tellement d'engouement et tout. On l'a observé également pour les législatives de 2024, oui.
Oui, 2024.
Les législatives de 2024 et tout. Et généralement, lorsque il y a ce fort taux-là, ça pénalise souvent donc l'opposition. Ça pénalise l'opposition. Aujourd'hui, il y a deux discours au niveau donc de l'opposition, ceux qui prônent donc le boycott des prochaines municipales en disant non, vous critiquez la 5e République et vous voulez encore aller aux élections et tout ça. Il y a d'autres, il y a ceux qui veulent y aller et qui leur répondent ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la 5e République, les élections municipales et tout, et qui sortent également les arguments. Mais déjà, les esprits sont divisés sur ce fait-là. Maintenant, il y a d'autres, surtout avec le changement de la Constitution, dans cette manière, la manière dont tout cela a été fait, aujourd'hui, a démoralisé ou démobilisé beaucoup de personnes. Et je crois que c'est une erreur, moi je l'ai dit, c'est une erreur de... Et qui feigne céder justement à cette fatalité donc du régime togolais en disant, et voilà quoi, il y a plus rien. Certains le disent même dans la masse, hein. Qu'aujourd'hui, ils ont le boulevard devant eux, maintenant, c'est devant ces maïs et tout. Donc, vous voyez, lorsque vous êtes dans ces genres de discours et tout ça, ça ne mobilise plus vraiment. Donc, nous sommes arrivés sur un certain nombre d'éléments et de facteurs qui ont concouru de 2005 avec le pic que je dis que nous avons observé en 2005. Ces facteurs-là sont là. Donc, ça permet aujourd'hui à ceux qui veulent véritablement participer à ces élections de trouver d'autres arguments pour convaincre les Togolais. S'ils veulent justement aller à ces élections, ils doivent se décupler, ils doivent trouver des formules ou ils doivent trouver des éléments, des arguments solides pour convaincre les Togolais à aller donc à ces élections législatives. Parce que nous avons vu qu'il y a certains maires qui viennent de l'opposition, qui tentent déjà de sortir un peu la tête de l'eau en prenant certaines municipalités. Déjà, c'est le pays qui en sort grandi et, ou qui sont en grand donc, dans cette situation. Donc, c'est en fait cet article-là, c'est en fait une alerte pour voir ce qui se dit dans la masse, et donc aux opposants politiques, surtout aux opposants, si vous voulez aller à ces élections, il faudrait que vous puissiez revoir le discours pour convaincre les Togolais.
Voilà. D'accord. Oui, Abbas, quand on parle alors de forte abstention, automatiquement, ça doit interpeller, notamment l'opposition.
Oui, c'est l'opposition que ça doit interpeller, parce que quand le schéma que Sylvestre a tracé, quand vous le suivez, vous allez voir que au fil des élections, il y a des abstentions qui s'accentuent. Pourquoi ? Parce que ça dépend du discours que l'opposition tient à l'endroit de ses militants. Aujourd'hui, les populations même ne savent pas à quoi s'en tenir. Qu'est-ce que nous allons faire ? Et c'est est-ce que nous allons voter ou bien nous n'allons pas voter ? Et à chaque fois, ça conduit à ces abstentions qui deviennent de plus en plus grandes et on ne sait pas, la population ne comprend plus le langage au niveau de et la population n'est plus convaincue de ce qui se passe actuellement. Donc c'est il faudrait redonner confiance en cette population, en ces électeurs là. Vous allez voir que les gens sont allés pour la révision des listes électorales. Les gens ont des cartes. Mais le jour de l'élection, ils vont dire que nous allons rester, on ne va pas aller voter. Parce que au niveau de l'opposition, c'est divisé. Il y a certains qui disent allons-y et que les municipales n'ont rien à voir avec la 5e République. Et d'autres qui sont engagés et qui vont. Et qu'on continue par sensibiliser aussi la population pour le bien fondé de ces élections. Donc, la population sont au milieu de cette chose-là.
Ouais, est-ce qu'il y a une sorte d'impasse aujourd'hui?
Il y a une impasse. Et puis, je voulais donner l'exemple de ce qui s'est passé la dernière fois. Lorsque on veut fêter le 13 et le 27 avril, l'opposition avait prévu faire une marche. Une manifestation. Le meeting, le pouvoir dit, vous pouvez reporter cette manifestation-là. Mais qu'est-ce que l'opposition voulait montrer en organisant ce meeting? L'opposition voulait montrer que non, on n'est pas d'accord avec la Constitution. Si on n'est pas d'accord, on manifeste. Et il fallait faire de telle sorte que vous manifestiez. Et malgré l'interdiction, vous manifestez. Et si on vous gaze, vous allez dire que voilà, on a reçu notre coup, comme l'opposition a l'habitude de le faire lorsqu'il y a manifestation, qu'il n'y a pas de gaz, c'est qu'il n'y a rien. Donc c'est là tout ça là qui fait démobiliser la population par rapport à ces élections.
Ok, merci beaucoup Abbas. Oui, je sais, dans le journal Le Détective, hein, ce matin, en parlant toujours alors de politique, vous vous intéressez justement au président de la République, hein, pour la 5e République, et vous écrivez, après la recherche en vain du président de la République dans l'opposition, Faure Gnassingbé confronté à un dilemme. Et c'est quoi ce dilemme?
Bon, je crois que les lecteurs ont quand même lu ce qui est écrit. Ils vont découvrir la quintessence de l'analyse qui est faite. L'information a circulé. Nous sommes partis à la source. On a vérifié. Et effectivement, il était question de dénicher encore une fois quelqu'un de l'opposition, compte tenu de la circonstance dans laquelle le régime a basculé la République dans la 5e. Et il était question maintenant, vis-à-vis de l'opinion également de la communauté internationale, de s'assurer que c'est le peuple qui a donné son option à tout ce qui se fait là. La preuve en est que le chef de file de l'opposition, Oulès, a accepté, avec qui d'ailleurs un accord a été signé avec tout ce que nous avons connu en 2010, et avec l'implication également du Vatican à un moment donné. Cette édition, vous n'êtes pas sans savoir également que des discussions également ont eu lieu entre le parti au pouvoir, le parti d'alors, le RPT qui est devenu Unir, et l'UFC. Donc cet accord, la façon dont cet accord a été quand même mené, le déroulé, en réalité, ne s'y est pas. Donc certains ont même dit que cet accord est tombé.
Caduque.
Voilà, des études rendues caduques. Et aujourd'hui, maintenant, il faut chercher. Maintenant, les racontes, selon les informations que nous avons eues, le chef de file ou le président national de l'UFC n'a pas accepté ce poste, et puis par après, mais on fouille encore dans les arcanes. On se dit, mais il y a un certain monsieur dans le temps qu'on connaît avec sa détermination, sa conviction, on peut le chercher. Et c'est le professeur Léopold Nilevi. Donc, on jugeait bon que c'est lui. D'autres ont dit que ce n'est pas lui. Mais sauf que ce dernier n'a pas été approché. Et au même moment, il y a également les courants qui pensent qu'aujourd'hui, quelques les choses évoluent. Donc, UNI doit encore prendre tout. Et c'est dans cette logique-là que, dans laquelle, bon, peut-être nous sommes, on attend de voir.
D'accord,
peut-être
on attend de voir exactement ce que ça va donner. On suit justement cette actualité. On en parlera toujours dans notre émission ici, Club de la Presse. Mais il est midi, et donc nous allons donner la parole à nos auditeurs, puisque c'est le principe de l'émission. Ils vont réagir sur nos deux numéros, 90 86 35 35 91 36 63 75. Et également réagir sur notre numéro WhatsApp, 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler sur le 90 86 35 35 91 36 63 75. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Bonjour le plateau, parlant de la digitalisation des services, notamment le service de nationalité. C'est la croix et la bannière. J'ai introduit la demande de nationalité de ma femme il y a de cela 4 mois sans réponse concernant soi-disant Yas Togo. Il anarque la population. Tu fais un forfait à 10 heures qui doit finir normalement le lendemain à 0 heure, mais c'est à 10 heures ça. Ils vont prendre votre forfait, aucune communication, et sans aucune communication sur ça. Et vraiment, nous sommes cuits dans ce pays. On a l'impression que c'est quand l'ARCEP les amende qu'ils volent plus la population. Merci et bonne émission. C'est Serge qui nous écrit 90 86 35 35. Allô? Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez? Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Allô.
Allô, je vous écoute. Comment vous allez? Décidément, il n'est pas en ligne. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Très bien, chef.
C'est Monsieur Nyamavo.
Nyamavo.
Allez-y.
Oui. Dans le temps des RPT, UNIR a pris l'habitude là, au moment où les élections s'approchent ou bien le mouvement électoral s'approche, on vous dépose des caterpillars, on vous fait la roue. Après campagne, élection, on amène le porte-chars pour vous prendre vos caterpillars, pour vous arracher votre caterpillar et la roue reste ainsi. Donc, UNIR se veut moderne. On a beaucoup de pierres ne pousse jamais. Et on est là. C'est comme ça. Comme l'a dit certains qu'on attend de voir. Et bien, au niveau de l'opposition, comme l'a dit l'autre, la dernière fois, j'étais déçu d'écouter Jean-Pierre Favre qui disait que les gens l'ont diffamé. Si un leader n'a pas le pardon, s'il prend le pouvoir, où seront les Togolais? Nous, nous voulons le pardon dans ce pays. Si l'opposition ne se pardonne pas, alors là, il n'y a plus d'opposition. Là, je m'aligne derrière les militants de l'opposition. Parce que quand tu passes dans la rue, c'est comme ça les gens disent. Il va d'accord, tiens, voilà, promis. Mais qu'il n'y a d'un autre. Bon, maintenant, soyez solidaires. Faites la géopolitique comme le fait UNIR. J'avais donné un exemple. Prenez un leader comme Aimé Gobé, vous allez voir comment ça va gazer. Eh oui. Et vous faites un discours commun. Mais avec des discours divergents maintenant, UNIR se donne ce terrain-là, il crée des partis politiques bizarres pour faire non seulement des pagnes de spécimens, des rideaux de spécimens. Les gens arrivent, ils n'arrivent pas à qui voter. C'est grave. Même au sein de UNIR, même, les gens disent, même si non, ça pas le voter, ça peut être souvent gagné. Voilà, c'est dans ce schéma-là nous sommes. Donc j'en appelle les leaders de l'opposition de mieux réfléchir pour avoir un discours commun. Bonne émission.
D'accord, merci pour votre intervention, Monsieur Nyamavo. Bonjour Canal FM. Comment se fait-il que, avec IAS Sénégal, l'appel et la connexion sont de moindre coût et comparativement à IAS Togo? C'est André qui réagit à travers cette question. André qui nous écoute depuis Dakar. 90 86 35 35. Allô. Oui, bonjour. Oui, c'est madame ici. J'espère que vous allez bien, madame ici.
Oui, bon.
D'accord, allez-y.
On fait l'effort de t'accompagner dans ton émission. La dernière fois, tu m'as coupé alors que je disais rien de grave. Hein.
Non.
Je disais que c'est rien hein, par rapport à ce qu'on vit dans le pays. Et puis, voilà. Donc, je n'ai pas très suivi, mais on est toujours dans le débat, le même débat de la conservation du pouvoir, vaille que vaille. Conservation du pouvoir, vaille que vaille. Ce n'est pas bon de faire ça. Et ils sont jeunes, ils sont arrivés en 2005, ils pourront faire mieux que les anciens. Mais si tout fait pire, là, ça n'ira pas, ce n'est pas bon, quoi. Hein? On est bien fait le bas du droit. Voilà. Et puis, moi, je veux dire, il paraît qu'ils ont choisi des docteurs pour éplucher le président, la santé du président. Et je dis d'emblée que le président souffre de la boulimie du pouvoir. Et il ne pourra plus le gouverner, quoi. Il a dépassé plein de mandats. Donc, c'est bon. Ça ne construit pas un pays comme ça. Merci.
Merci, madame Essi, pour votre intervention. Bonjour, le plateau. La population est vraiment fatiguée des deux téléphonies mobiles. Un forfait appel ou Internet devrait y rester pour le client jusqu'à son épuisement. Parfois, c'est des oublis que l'on a. Or, c'est pas le cas dans les pays limitrophes. C'est Eric qui nous écoute. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ali.
Ah, monsieur Ali, comment vous allez?
Oui, vous vous dites que les deux réseaux se complotent pour nous voler. Et surtout, quand on fait coffret, appel ou internet là, c'est sur le réseau qu'on a investi. Pourquoi on ne fait pas délai de validité prolongée? C'est seulement quand on appelle crédit, appel direct qu'ils font prolongement. Pourquoi? Ou bien c'est pas sur le réseau qu'on a dépensé. Il faut qu'on dépense sur le réseau. Ça doit se répercuter sur la durée de validité du crédit. Et surtout, côté politique là, ceux qui parlent de gouvernement là, de l'opposition, se trompent. Actuellement, tout va se corriger Togo avec le gouvernement. C'est le président qui doit décider et agir. C'est ça la réalité. Le reste.
Il est parti. Ali, merci quand même pour votre intervention. Bonjour, Canal FM. Je suis d'accord avec celui qui a parlé du risque de taux d'abstention élevé. La preuve est que le jour de la révision des listes électorales, une dame, me voyant tenir ma carte d'identité, m'a posé la question de savoir ce que je viens faire encore. Et c'est Emmanuel depuis Toglekopé. Merci, Emmanuel, pour votre réaction. 90-86-35-35. Allô?
Pascal, bonjour.
Bonjour Basile, j'espère que vous allez bien.
Ah, c'est de l'ouvrir, hein.
D'accord, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit. Si vous pouvez diminuer son volume, ce serait intéressant.
Bon, j'ai écouté. Je salue d'abord vos conseils en studio. Et on ne sait pas pourquoi ceux qui sont de l'Union, quand ils viennent, c'est ce que le pouvons faire, qui est leur progrès.
Basile.
Oui.
Je voudrais que vous vous prononciez sur l'actualité telle que nous l'avons débattue ici. Il n'y a personne du nez ici.
Ah bon, il se connaît. Il se reconnaît plutôt. Bon, moi, ce que je veux dire, ici au Togo, il n'y a pas quelqu'un qui sait que venir nous marcher, c'est le président de la République seul. Parce qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Il est subtil en subtil. Il a fait quelque chose maintenant que celui qui est là-bas, du FPT, du Mini plutôt, il a fait la 5e République. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a constitué? C'est quoi on a constitué comme ça? C'est sûr, c'est dans quel pays qu'on voit des choses comme ça? Il n'y en a pas au monde. C'est ce que nous vous disons. Moi, qui dis ça ici, ce n'est pas pour mon seul intérêt que moi je le dis. C'est pour même celui qui est en train de parler, ben, je ne sais pas celui que lui, il trouve dedans, en venant jusqu'au terme de personnes qui fait le problème au Togo. Mais moi, je ne comprends pas.
Mais vas-y, Basile,
ouais.
Est-ce que vous avez suivi de bout en bout?
Et je vous ai suivi de bout en bout.
Et vous, quelqu'un a dit ici que l'opposition est le problème, vous avez écouté ça?
Ah, quand il dit...
Non mais Basile, ce n'est pas quand même... Non, merci. Merci beaucoup Basile. Merci pour votre intervention. Il est très important quand même de nous suivre hein, de bout en bout pour... vous prononcez quand vous voulez vous prononcer, prononcez-vous hein, sur l'actualité telle que nous l'avons débattue, bien sûr, et n'attribuez quand même pas des propos à des gens sur le plateau. Si des gens n'ont pas dit quelque chose, n'attribuez pas cela hein, à des gens 90, 86, 35, 35. Allô? Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment vous allez?
Je vais bien.
C'est Natima?
Oui, c'est Natima.
Voilà. J'ai bien reconnu la voix.
Moi, j'ai dit quelque chose. On crée le campus à Dakar. C'est bon. C'est tout généralement qu'on a fini celui de Lomé. Celui de Kara là-bas est en chantier. On n'a pas encore fini et on lance celui-ci. Ça, c'est très bon. Maintenant, ce que moi, je veux dire, un seul ministre fait 20 ans dans le gouvernement. Un seul président fait 20 ans. Les autres, 15 ans. Et plus, les gens sont revenus même. Bon. C'est là qu'on crée, on crée les universités, on les forme là. Et ceux-là qui sont partis aussi en Europe là, et ils deviennent quoi? On va les former, ils vont faire une ville, ils vont devenir quoi dans la nature? Pourtant, c'est eux qui sont au podium, qui crient toujours que chacun apporte sa pierre sur l'édifice du bien de l'État. Et voilà ce qu'ils font. Une seule personne, 20 ans, ce n'est pas normal. C'est pourquoi, naturellement, on dit qu'il fait un mandat ou bien deux mandats, ça ne suffit pas. Quelqu'un d'autre vient. Et le pays avance, le pouvoir tourne. Et il s'active de la richesse, de gauche à droite. Mais aujourd'hui, vous voyez ce que dans le pays va. Je ne sais pas si ils sont en train de voir ça. Hein. On est en tout cas, c'est la crise totale. Les gens ont fait. Merci, bonne émission.
Merci beaucoup, Natima, pour votre intervention. Nous avons encore quelques minutes. Nous allons recevoir notre dernier auditeur, 90 86 35 35. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Mauto, comment vous allez?
Oui, salut le plateau.
Oui, le plateau aussi, vous salue.
Hein. Tenez-vous bien ça. C'est ce que dit le Togo, les gens togolais là. Parce qu'ils sont à bout de souffle, quoi. Ils n'en peuvent plus. Ils n'ont plus rien à donner au peuple togolais. Qu'est-ce qui marche maintenant au Togo? C'est pas faire de l'opposition pour bien ce qu'elle nous là. C'est que les gens là, ils ont en tête leur apogée, quoi. Ils n'ont plus rien à nous présenter. Libre à ceux qui veulent nous croire que le pouvoir va faire tout cela. Eux-mêmes, ils s'efforcent de faire des choses, hein. Mais est-ce que vous savez ça? Quand ça ne se voit pas, rien dans le pays, quoi. Ils doivent laisser le pays à d'autres personnes pour qu'on fasse une bonne comparaison. Mais c'est une bonne émission.
Merci, monsieur Mauto, pour votre intervention. Vous êtes le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Il y a des réactions hein, sur notre numéro WhatsApp. Bonjour, Pascal. Le poste de président de la République, c'est à mon avis, J.Chris Olympio qui est le meilleur candidat. C'est Pascal qui nous écrit, bien sûr, également. Bonjour, les amis. C'est juste pour vous dire merci pour l'émission. Excellente fête de travail à vous tous et portez-vous bien et coucou à madame ici, c'est monsieur Nyamaku qui nous écrit bien sûr ce message. Nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce jour et voilà Basile, nous sommes à la fin alors de cette émission, votre réaction pour clôturer l'émission?
Non, je n'ai aucune réaction. Mais seulement que je voulais parler à nos concitoyens, concitoyennes, de la nécessité de prendre leur santé en main. Et aujourd'hui, et les chiffres explosent. Les chiffres sont très ascendants. Comment faire pour arrêter l'hémorragie? Donc, C'est une mission que on s'adonne tous ici demain, surtout à la rencontre du thé des journalistes. Je convie tous les confrères, toutes les consoeurs à se joindre à nous pour parler de notre santé. La santé, c'est une préoccupation. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu parler des AVC parce qu'il y en a tellement. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui, le matin, le soir, on le traîne dans les quatre planches. Elle se voyait. Alors que nous avons la possibilité de, comme dit un spécialiste, que nous avons la possibilité, nous tous, d'arriver jusqu'à 120 ans. Mais par nos pratiques d'alimentation, hygiène de vie, de comportement alimentaire, ça fait que de jour en jour, on perd des années. Et donc, nous invitons les partenaires à nous porter main forte. Parce que Santé Éducation, avec les autres médias, nous allons nous mettre en synergie pour mener cette bataille. Ce n'est pas réservé à une institution. Donc, on n'a qu'à nous apporter ce crédit-là.
D'accord. Merci beaucoup, merci. Basile. Oui, Sylvestre.
Non, je crois que le dernier intervenant, c'est Mauto.
Oui, c'est Mauto.
C'est Mauto. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il dit que ceux qui sont là n'ont plus véritablement rien à prouver. Vous savez, c'est Obasanjo qui disait que lorsque vous êtes au pouvoir, vous avez fait 10 années au pouvoir, vous ne pouvez plus rien donner. Vous ne pouvez plus donner au-delà de votre génie. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à l'apogée, c'est à l'extrême. Et donc, ça fait 65 ans d'indépendance que nous avons fêté la dernière fois et tout. Mais lorsque ceux qui sont là et qui ont fait peut-être le système, je parle du système qui est là et qui a fait 62 ans sur ces 65 ans-là, regardez un peu le Togo comparatif à d'autres nations. Vous savez, le Togo est indépendant avant le Singapour. Le Togo est indépendant en 1960. Le Singapour, c'est 5 années plus tard. Le Botswana. Le Togo est indépendant avant le Botswana, avant l'île Maurice. Mais allez regarder ces pays-là comparativement aujourd'hui au Togo. Regardez, aujourd'hui, le Bénin est en train de nous damer le pion. Le Bénin, avant qu'on arrive à ce stade-là, peut-être le Bénin sera à des années-lumière. Ça veut dire qu'en réalité, vous voyez un peu le Togo. On ne peut que le faire. L'âme sont patriotes, quoi. Il faut donc qu'on puisse dire la vérité. Peut-être que, oui, aujourd'hui, certains peuvent être peut-être dans leur bureau. Ce que je dis là, c'est ça, ça les écœure, ils sont énervés et tout. Mais souffrez qu'on nous dise la vérité. On nous dise nous-mêmes la vérité. Le pays n'avance pas. Le pays ne décolle pas. Ceux qui sont là, ils ont prouvé, ils ont donné le meilleur. C'est, ils ne peuvent plus donner au-delà de ce qu'ils ont donné aujourd'hui. Mais qui cède le plancher?
D'accord, merci Sylvestre. Merci Sylvestre. Oui, Abbas.
On n'a pas grand-chose à dire.
D'accord.
Bonne fête de travail à tous les travailleurs.
Tout à fait. Merci beaucoup Sylvestre. Oui, Justin.
Bon, moi, je pense que l'interpellation est faite, hein, par mon confrère Béni. Parce que quand vous parlez de la démocratie, la tenance en fait partie. Et d'ailleurs, c'est le socle. La volonté populaire ne peut jamais être là et que vous la confisquez et vous imposez votre suprématie. Et pour une nation, lorsqu'il s'agit de la loi fondamentale, je pense que c'est un contrat social. Donc c'est le peuple qui doit donner quand même son action. Au-delà de tout ce que nous observons là, la mise en place des institutions, c'est qu'il y a une république, président, pas président, qu'est-ce qu'on fait, des réunions qui s'organisent même au sein d'un parti politique, dans les clans diversifiés, je dirais même opposés entre guillemets. Et pour parler de l'avancement de ce pays-là, moi je pense qu'il y a problème. Donc il revient à ceux-là qui sont au niveau de la gouvernance, de se regarder dans le miroir et de se poser beaucoup de questions sur l'avenir du pays. Et je termine par rapport à l'écrit de Sylvestre. Il a bien fait d'ailleurs. Malheureusement que le temps ne l'a pas permis. Sinon, quand vous retournez en 1993, vous interrogez l'histoire sur la participation du Togo, c'est parce qu'à ce moment-là, c'est l'élection présidentielle. Il y a eu boycott appelé par l'opposition. En 1994, c'est toute l'opposition qui a pris part pratiquement, à l'exception de quelques partis politiques de l'opposition. En 98, c'est l'élection présidentielle. Avec tout ce qui, quand vous prenez cette date-là, jusqu'en 2024 récemment, au fur et à mesure que vous évoluez, vous allez comprendre que des élections auxquelles l'opposition a appelé, auxquelles l'opposition a discuté en amont, il y a eu une forte participation. J'en ai pour preuve l'élection présidentielle de 2020. La forte mobilisation, la participation, vous en avez vu. Mais par après, tout ce que cela a donné. Donc ça a démobilisé les gens par après. Donc c'est pour dire que lorsqu'on est en face de ce problème-là, il y a aussi l'opposition qui est interpellée, mais le pouvoir, les dirigeants sont plus interpellés. Parce que dans un pays où les populations ne donnent plus option à l'élection, peut-être que, comme quelqu'un a l'habitude de le dire, bonjour, bonjour les dégâts.
Alors, merci à vous tous. Nous terminons cette émission sur cette information très importante. Suite à l'incendie survenu sur le site du CITEF dans la nuit du 29 au 30 avril 2025, l'accès au site est exceptionnellement fermé ce mercredi 30 avril pour des raisons de sécurité et d'évaluation technique. Nos équipes alors sont pleinement mobilisées pour rétablir les conditions optimales d'accueil. Le site rouvrira ses portes dès demain jeudi 1er mai à partir de 9h. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre solidarité. C'est bien sûr le service, enfin la l'organisation de Miato, bien sûr le marché international de l'artisanat du Togo qui donne alors ce communiqué, qui fait ce communiqué. Merci beaucoup chers confrères d'être passé alors dans cette émission. Basile Mignaké, merci à toi d'être passé dans cette émission. Merci Sylvestre Béni d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal La Manchette, Abbas Issaka. Merci d'être passé alors dans cette émission, directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Merci Justin d'être passé aussi dans cette émission. Vous collaborez avec beaucoup de journaux, notamment Le Détective. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Et moi, je ne peux que vous souhaiter bonne fête à l'heure de travail, puisque demain, c'est bien sûr le 1er mai. Bonne fête de travail à vous tous. Merci à Kiki Sosa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.